Nous en sommes arrivés donc à l'étape prochaine, la scène prochaine de ce signe. Ce signe est méconnu. Quand Jésus multiplie les pains pour nourrir 5000 hommes, ces hommes se rendent compte qu'il s'est passé quelque chose, non seulement d'extraordinaire, mais qui dépasse de loin ce que Élisée et Élisée avaient accompli dans l'Ancien Testament. Et voici leur réaction, verset 14. Alors les gens, voyant le signe qu'il avait fait, disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Bon, c'est le prophète que Moïse avait promis au peuple, le peuple devait l'écouter. Autrement dit, grosso modo, il commence à prendre Jésus pour le Messie. Mais selon l'attente populaire en Israël du 1er siècle, au temps de la domination romaine, ce prophète devait être, comme Moïse, le libérateur de son peuple. Comme Moïse avait délivré les Hébreux de l'esclavage égyptien. Avec lui s'établirait pour Israël un temps de suprématie politique et de prospérité économique. Les chefs révolutionnaires, les historiens ont fait le recensement entre l'arrivée des Romains en Israël, 60 avant Jésus-Christ, jusqu'au début de la guerre judéo-romaine, 70 après Jésus-Christ, donc ça fait 120 ans, si ma maths est correcte. On a recensé à peu près une soixantaine de faux messies qui se présentent en Israël. Est-ce que Jésus serait numéro 61, un autre faux messie? On connaît le nom de certains de ces faux messies dans le livre des Actes. Un certain Teudas qui est mentionné, et aussi un Égyptien dont on ne connaît pas le nom, qui a essayé de soulever le peuple. Et tous ces soulèvements prenaient à peu près le même visage. Le prétendant messie promettait au peuple des signes comparable à ce que Moïse avait accompli. Donc il amenait les gens dans les lieux privilégiés, les lieux entre guillemets sacrés de l'histoire d'Israël, dans le désert autre, et promettait des signes. Malheureusement, les signes n'étaient jamais au rendez-vous. Par contre, les Romains étaient au rendez-vous. Et ils venaient avec la troupe, parce qu'on ne badinait pas avec la rébellion dans l'Empire romain, et massacrer et disperser les disciples de ces faux messies. Jésus va avertir ses disciples à ce sujet. Si quelqu'un prétend être le Messie, ne les suivez pas. Bon. Alors, ils lisent ce signe, ces gens, mais dans la perspective, dans l'optique de leurs propres préjugés, leurs propres idées préconçues, fausses, sur le Messie et sur la nature de son règne. C'est ce que Jean appelle la chair, la pensée de la chair. C'est la pensée humaine, la pensée religieuse humaine, notamment, précisément dans le contexte des évangiles, la pensée du judaïsme incrédule du premier siècle. Et ça, la chair. Et il rate le sens, le vrai sens, la vraie signification de ce miracle. Ils le lisent en fonction de leurs propres idées humaines au sujet du Messie. En fait, ils ne cherchent pas le pain de Dieu. Ils cherchent le propre pain. Okay. Il y a un mythe que nous avons. Peut-être pas explicitement, mais nous avons tendance à envisager les Juifs du temps de Jésus comme Rabbi Jacob. Habillé en noir avec les papillotes. Non, les Juifs étaient hautement martiaux. Ils ont détruit une légion romaine pour déclencher la guerre contre les Romains. Probablement les trois quarts de l'armée de Cléopâtre, la célèbre reine d'Égypte, étaient des mercenaires juifs. Ils se connaissent en action militaire, les Juifs. Ce n'est pas dans les Juifs comme on les imagine aujourd'hui. Ça, c'est un genre de mythologie qu'il faut écarter. Mais imaginez ça, ils suivent Jésus parce qu'il guérit. Et maintenant, ils donnent du pain gratuit. Mais vous vous rendez compte, un roi, si je me présentais pour la présidence de la France, je donne les vivres à satiété gratuitement et je guéris tous les malades gratuitement, instantanément. Pas besoin de la sécu, pas besoin d'aller travailler. Là, je serai élu. Alors, ce que espèrent ces juifs, c'est que Jésus va les libérer, fonder un empire juif, théocratique, mais l'État-providence par excellence. C'est un peu ça leur idée, exprimée en termes modernes. Alors Jésus, il peut discerner ce qui est derrière l'enthousiasme de cette foule. Il sait quel est leur idéal. L'idéal du judaïsme qui est partagé dans toutes les couches de la société. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Verset 15. Alors Jésus, sachant qu'ils allaient venir et s'emparer de lui pour le faire roi, le roi à leur façon, se retira. C'est plus fort chez les autres évangiles. Il les renvoie. Se sépare d'eux. Il se retira plus avant dans la montagne seule. Pourquoi? Les autres évangiles nous disent pourquoi. C'était pour prier. C'était pour être en communion avec celui qui seul pouvait lui donner la vraie gloire. Donc Jésus résiste ici à la tentation d'un messianisme nationaliste, d'une puissance qu'il avait déjà rejetée quand il était 40 jours dans le désert avec Satan. Et c'est une tentation qui va poursuivre Jésus jusque dans le jardin de Gethsemane. Jésus refuse. Pourquoi il refuse? Parce qu'une idée satanique. Parce que ce modèle du Messie vient de Satan. C'est pas pour rien que Jésus appelle Pierre, arrière moi, Satan. Ah, ça c'est fort, hein? Ça c'est fort. On ne se rend pas compte. Il appelle son premier disciple, disciple qui voulait être premier ministre, il appelle Satan. C'est une idée satanique. Il faut comprendre cela. Alors, cette histoire finit presque en queue de poisson. Une grande déception. Il y avait ce grand festin messianique. Jésus renvoie la foule. On va voir, les apôtres vont se retrouver tout seuls. Et la nuit tombe. Bon, ce signe est complété par un deuxième tableau, un deuxième signe, que nous allons regarder maintenant. Bon, je vais sauter pas mal de textes, c'est pas rien, je vais terminer aussi vite que possible. Verset 7. Quand vint le soir, ses disciples descendirent à la mer et montés dans une barque, ils allaient de l'autre côté de la mer, c'est-à-dire vers Capernaüm, à Capernaüm. Et déjà, l'obscurité, ténèbres, s'était faite. Et Jésus n'était pas encore venu à eux. Bon, ils attendent Jésus, il ne vient pas. Ils vont aller à Capernaüm. Chez eux, c'est Jésus. Jésus habite à Capernaüm, il y a une maison au bord du lac. Et ils vont retourner, ils sont à Tibériade, ils vont retourner à Capernaüm. Pourquoi est-ce qu'ils partent ça, de là sans Jésus? Matthieu 14, verset 22. Aussitôt, Jésus obligea les disciples. Jésus les force à partir sans lui. Obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder, à aller devant lui, sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. C'est le soir. Déjà le soir et puis la nuit. Si vous connaissez l'évangile de Jean, vous savez que ce n'est pas innocent, cette indication. La nuit, c'est la ténèbre. C'est la ténèbre qui s'oppose, mais n'arrive pas à arrêter à la lumière de Logos. C'est la ténèbre qui risque d'envelopper ceux qui ne marchent pas, les Juifs qui ne marchent pas à la suite de Jésus. C'est les ténèbres de l'incrédulité, d'où vient Nicodème, qui s'appelle celui qui est venu de nuit, vers la lumière du monde. Et ça reste. Les apôtres sont dans le noir. Quel noir? L'incrédulité. Ils sont toujours dans l'incrédulité en ce qui concerne, ils croient que Jésus est le Messie, mais en ce qui concerne son programme messianique, en ce qui concerne le vrai plan de Dieu, ils sont incrédules. Ils sont dans le noir. Ils ne savent pas où Jésus est, ils ne savent pas, ils ne savent pas qui il est réellement. Alors, Jésus les envoie comme ça. Faire quoi? Il y a l'orage. Qui l'aurait cru? Verset 18. La mer se réveillait au souffle d'un grand vent. Alors, après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, c'est à peu près 5 ou 6 kilomètres, ils voient Jésus marcher sur la mer et s'approcher de la barque. Et ils eurent peur. Qu'est-ce qu'ils craignaient? Ce n'est pas le tourbillon. Il y a au moins 4 pros dans, cette barque. 4 gens dont le métier est d'être sur ce barque. C'est Pierre, André, Jacques et Jean. Au moins 4. Donc ils ont l'habitude. Ce dont ils n'ont pas l'habitude, c'est de voir quelqu'un marcher sur les eaux. Et c'est ça qui les fait peur. Ils paniquent. Marc 6, en le voyant marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris. D'accord? Car ils le virent tous et ils furent affolés. Mais il leur dit, verset 20, c'est moi, cessez d'avoir peur. Alors ils voulaient l'accueillir dans la barque. Lorsqu'aussitôt la barque se trouva au rivage, là où ils se rendaient. Bon, pour Jean, pas besoin de vous le dire, c'est un signe ici. C'est un signe qui va avec le premier signe des pas. Toute la démarche de Jésus dans ce récit a une signification. Une signification qui nous renvoie, et c'est extraordinaire, extraordinairement complet, comme si on va y voir tout l'itinéraire messianique de Jésus, ici, dans un seul signe. C'est vraiment, il n'y a rien de tel dans les évangiles. Comme il n'y a pas un discours de Jésus comme celui de Jean-Jacques Tressis. Incroyablement révélateur. Alors on va regarder ça. Moi j'ai divisé ce tableau symbolique en 8 scènes. Maintenant je vous demande de regarder la page 4. Je vous donne ça parce que je suis nul pour dessiner. C'est l'ordinateur qui a dessiné pour moi. Alors, Jésus est sur la montagne. Il est en communion avec son Père. Et il voit venir la foule affamée. Quoi? C'est l'origine céleste de Jésus. C'est l'origine divine. Et son désir de sauver l'humanité en détresse. Deuxième chose qui arrive, Jésus descend de la montagne, descend du ciel. Il quitte la gloire, dira-t-il en Jean 17, que j'avais auprès du Père avant que le monde fût. Et Jean 3, il descend du ciel. C'est l'incarnation. Et le Logos devint chair. Déjà, on a deux mystères, deux secrets du règne que Jésus fait connaître symboliquement. Son origine céleste et son incarnation. Incroyable. Ça serait déjà un signe fantastique. Et ça continue. Troisièmement, Jésus nourrit la foule d'un pain miraculeux qui ne se perdra pas et qui est assez abondant, 12 couffins, pour nourrir tout le peuple de Dieu de tous les temps. Bien sûr, ce signe miraculeux renvoie à la mort sacrificielle de Jésus. Il va dire, Jean 6, 51, « Le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Quatrième réalité qui est signifiée ici. Jésus se retire des multitudes égarées dans le rêve d'un empire juif théocratique politico-militaire. Ces juifs qui veulent le forcer, ils vont s'emparer de lui et le faire roi. Il se sépare de cette idée. Il les renvoie, il prend ses distances par rapport à cette idée. D'accord ? Parce que c'est satanique. C'est exactement ce que Satan propose à Jésus. Vous savez, Satan, Jean nous le dit, c'est le prince de ce monde, juif. Qui est le chef du peuple juif en Israël au premier siècle ? Satan. Vous croyez que c'est trop fort ? Lisez Jean chapitre 8. Vous croyez que vous êtes enfant d'Abraham ? Ben, j'ai une nouvelle pour vous. Vous êtes enfant du diable. Parce que vous voulez accomplir sa volonté. C'est un mensonge, ça. Donc, il y a une signification ici. Jésus va dire, vous me chercherez. Il dit ça aux Juifs. Bon, il va le dire aux apôtres aussi. Dans le même sac. Mais il dit aux Juifs, en chapitre 7, vous me cherchez, vous ne me trouverez pas. Les partisans du monde juif incrédule chercheront un messie théocratique. Mais ils ne trouveraient pas. Ils ne trouveront pas. Pourquoi ? Il n'existe pas. Un messie venu de Dieu, comme ça. Vous me chercherez. Vous vont croire trouver, Il y a tant de messies qui vont les mener à la guerre contre les Romains. Ben, vous voyez ce que ça donne. Jésus essaie de détourner le peuple de ses ambitions nationalistes. Parce que ce n'est pas le dessein de Dieu. Donc, voici le rejet, ça c'est un des mystères du règne, le rejet de Jésus comme Messie, parce que le rejet de son programme messianique, celui qu'il incarne et réalise, par le judaïsme officiel. Cinquièmement, Jésus remonte à l'endroit d'où il était venu. La montagne. Bien sûr. L'ascension. Jésus remonte, là où il était. Jésus parle, on parle du scandale de la croix, mais l'ascension était aussi un scandale. Parce que les Juifs voulaient le roi qui règne à partir de Jérusalem sur le monde. Ce n'est pas le dessein de Dieu. Et Jésus dit aux gens qui vont se scandaliser parce qu'il parle de donner sa vie, un messie mort qui veut un messie mort, ça n'a pas de sens. Si vous n'arrivez pas à accepter un messie mort, qu'est-ce que vous allez faire quand vous apprenez que le messie règne à partir du ciel? Scandale de l'ascension. Jean 7, 6, verset 62. Alors, si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. Il venait de dire, ça vous scandalise ce que je vais dire, ce que j'ai dit sur ma mort? Alors 6, Jean envoie les 12 qui sont toujours dans le noir en ce qui concerne le vrai programme messianique de Dieu, affronter l'orage. Quel orage ? L'orage de sa mort, l'orage de l'hostilité des autorités juives contre Jésus et contre... Vous savez, il y a un moment, Jésus est en train vraiment de... de gronder les pharisiens. Et les disciples viennent, ben Jésus, hein, doucement, doucement. Tu sais, tu es en train de les offenser. Et Jésus dit quoi? Ce sont des aveugles. Et les aveugles qui suivent les aveugles, vous savez le reste. C'était un scandale pour les disciples que Jésus soit rejeté par le peuple. Alors, Jésus les rend, lui, il quitte et il retourne au Père. Il dit en Jean 17, en parlant à Dieu, « Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, les apôtres, sont dans le monde. Moi, je viens à toi. » Mais eux, ils restent, ils doivent affronter l'hostilité du monde juif incrédule. Vous savez, haï à cause de mon nom, vous savez, exclu des synagogues, les juifs vous mettront à mort. Dans le monde, vous avez de l'affliction. Septièmement, Jésus revient vers eux en marchant sur l'abîme, la mort. Il foule aux pieds la mort, il est ressuscité. Mais ce n'est pas vraiment la ressuscitation. La résurrection, ressuscitation, c'est autre chose. C'est pas la résurrection que Jésus met en scène tellement ici. C'est les apparitions qu'il va faire aux apôtres en tant que ressuscité. Vous voyez? Il foule au pied déjà la mort et il vient vers les disciples. Et qu'est-ce qu'il croit? C'est un fantôme. Qu'est-ce qu'il croit quand Jésus apparaît après sa résurrection, la première fois qu'il rencontre les 11 rassemblés, ou les 10 rassemblés? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est un fantôme. Jésus est obligé de prouver que vraiment c'est un être corporel. Donc Jésus met en scène ici ses apparitions en tant que ressuscité aux apôtres. Et je vous ai dit hier, théologiquement parlant, ces apparitions ont une importance négligée, malheureusement, mais une importance capitale. C'est là que les apôtres seront convertis. Réellement. C'est là qu'ils vont comprendre et accepter le vrai dessein de Dieu. Après la mort, la résurrection et l'ascension. Jésus ne les laissera seuls. Ne laissera pas seuls. Il viendra vers eux. C'est intéressant dans l'évangile de Jean, les autres évangélistes parlent d'apparition. Jésus apparaît. Jean dit, Jésus vient. C'est une venue. C'est un avènement de Jésus. Je viendrai vers vous. Et quand Jésus le fait, il dit, Jésus vient se joindre à vous. C'est un avènement de Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelin, Jean 14. Je viens à vous. Encore un moment et le monde ne me verra plus. Et il dit, le monde se réjouira. Alors les Juifs, on a réussi notre coup, s'est débarrassé de ce gars qui est nul comme Messie. Mais vous verrez que moi je vis et vous aussi, vous vivrez. Alors, huitièmement, les disciples accueillent Jésus dans la barque. Et c'est presque un miracle. Le moment où Jésus met le pied dans la barque, ouf, ils sont là. Vous avez remarqué ça, il y a des commentateurs qui croient que c'est un deuxième miracle. Ici, tout de suite, ils se trouvent à destination, Capharnaüm, là où Jésus demeure, là où il avait sa maison. Souvenez-vous de ce que Jésus dit à Pierre, dans la chambre haute. Là où je suis, attention, il ne dit pas là où je serai. Là où je suis, maintenant, au moment où je te parle, Pierre, je vous parle, là où je suis, vous ne pouvez pas venir. Où est Jésus? Il est en communion avec Dieu. Et Pierre dit, moi aussi, pourquoi est-ce que je ne peux pas venir tout de suite? Moi, je suis prêt à mourir pour toi, épée à la main. Jésus dit, il faut attendre. Quand tu viendras plus tard. Pas parle de sa mort. Pierre n'est pas en communion avec Dieu. Jésus l'est, mais pas Pierre. Pierre est toujours en communion avec Satan. Il est incrédule. C'est le même Pierre à qui Jésus avait dit, arrière de moi. Est-ce que Jésus apprécie ses disciples? Oui, il dit, félicitations. Vous êtes ceux qui sont restés fidèles avec moi. Vous comprenez rien de ce que je dis? Ça ne fait rien, vous allez comprendre. Mais vous êtes restés fidèles à moi. Les autres sont partis. Ouais. Au moins, vous êtes fidèles. Mais quand ils voient que Jésus n'est pas dans le jardin, ils voient que Jésus n'est pas le genre de Messie, parce qu'ils croyaient au Jésus Superman. Vous savez, dans l'ancienne série, Superman, il va dans une cabine téléphonique, hein, il change de vêtements et il sort Superman. Eux, ils croient jusqu'au dernier moment que Jésus va se transformer en super empereur juif. Au dernier moment, il va faire un coup spectaculaire et renverser la situation et prendre le pouvoir. Quand ils voient que Jésus se laisse arrêter, ah, c'est trompé, c'est pas lui le Messie. Ils s'en vont, ils fuient, non pas parce qu'ils sont des lâches. Vous voyez que Pierre est un lâche, vous voulez couper la tête à ce gars, par l'oreille. Pierre dit, je suis prêt à mourir pour toi. Et il ne mentait pas. Pierre n'est pas un lâche. C'est un incroyant. C'est autre chose. Il quitte Jésus parce qu'il ne croit plus qu'il est le Messie. Nous avions cru que c'était lui qui devrait délivrer Israël. Pas temps passé, hein? L'imparfait. Nous croyons, on ne le croit plus. Jésus est mort. Nos espoirs sont finis. Mais ici, ils accueillent Jésus dans la barque. Après la résurrection, Jésus foule aux pieds la mort. Et il le reçoit dans la barque. Ils accueillent l'enseignement que Jésus va leur donner après sa résurrection. Et dès qu'ils accueillent son enseignement, pouf, ils sont à la maison. Ils sont en communion avec Dieu. Ça, c'est la maison que Jésus part préparer pour eux. Maintenant, ils sont dans la maison de Dieu. C'est pas évident, hein? Ils ne vont pas croire du premier coup, hein? 40 jours, pourquoi 40 jours? Parce qu'il y a des têtus qui ne veulent pas renoncer à l'idéal théocratique. Et Jésus, il faut 40 jours pour les convaincre. Bon, on n'a pas le temps de le voir. Pierre est un de ceux-là, un des derniers. Jean chapitre 21. La conversion manquait encore de Pierre. Ouais, c'est pas évident. C'est une idée qui a la vie dure, même chez les apôtres. Vous savez, si les Juifs du premier siècle étaient ici aujourd'hui, on les traiterait de racistes. C'est trop fort. Un juif ne peut pas entrer dans la maison d'un non-juif. Vous voyez ça aujourd'hui? Si quelqu'un avait cette attitude, ah, mais c'est un raciste. Le juif méprisait les païens, encore pire les samaritains. Dieu n'a jamais voulu un peuple élu raciste. Ce n'était pas son plan. Jamais. Ils ont déformé la révélation que Dieu lui avait donnée à Israël. Quand Jésus arrive, ils sont en communion avec Dieu. Il apporte la paix. Il le dit, je vous donnerai ma paix. Ce n'est pas la paix du monde. La paix du monde pour le judaïsme du premier siècle, c'est massacrer tous les infidèles. Les juifs ne coupaient pas les têtes. Et puis, on a la paix. Les Romains avaient la même idée. Vous savez, dans le jardin, ce n'est pas Jésus et les disciples contre les gardes juifs et les Romains. Ce n'est pas ça. C'est Jésus contre les disciples et les Romains. Parce que les disciples ont exactement les mêmes idées que la troupe juive. Ouais. Pierre tire son épée. Moi, je suis prêt. à mourir pour mon empereur. Et je dis, branche ton flingue. Pas ça. La pierre. Pas ça. Donc, Jésus va venir. Qu'est-ce qu'il dit en Jean 14? Est-ce en ce jour-là, une fois que vous êtes en communion avec Dieu, une fois que vous acceptez le vrai programme assigné de Dieu, vous connaîtrez-vous que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Là nous serons en communion. Vous êtes en communion à Dieu, avec Dieu, que moi je suis en communion avec Dieu. Mais avant ils ne sont pas en communion. Jésus sera avec eux. Bon, ils ne le verront pas physiquement. À un moment donné, Jésus va arrêter les apparitions. Et ils vont avoir la présence de Dieu, la présence de Jésus, son esprit. Alors, en attendant, il n'y arrive pas. C'est vrai que dans le récit de Matthieu, ce miracle les impressionne. Et commence à se poser la question, commence à croire que Jésus est plus qu'un prophète. On va lire ça. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, vraiment, tu es fils de Dieu. Ça veut dire Messie. Dans les évangiles, le titre fils de Dieu est synonyme de Messie. Commence à soupçonner que Jésus pourrait être le Messie. Seulement, il est évident que l'idée qu'ils se font du Messie, exactement celle de la foule. Ils vont voter pour Jésus pour être le prochain empereur. Et bon, ils vont se battre pendant tous les évangiles pour savoir qui est le premier ministre. Ils n'ont pas réussi. Marc est beaucoup plus direct. Marc 6, 51. Ils étaient extrêmement bouleversés par cet orage. En effet, ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. Rien compris. Rien. Ils ont compris que c'était un miracle. Mais le sens, zéro. Ils ne comprenaient pas. Ils sont dans le noir. Ils sont incrédules. Leur cœur était endurci. Cœur, dans la Bible, c'est l'intelligence. C'est la volonté. Ce n'est pas les sentiments, comme pour nous en français. Ils avaient la tête dure. Mettez-vous ça dans le crâne. On a vu ça hier. Comment sauront-ils que Jésus est le Seigneur de l'univers, pas simplement un messie humain, un empereur juif, chef d'une théocratie juive mondiale, imposant la loi de Moïse aux nations par la force? Comment est-ce qu'ils sauront que Jésus n'est pas ça? Jésus va leur dire, il faut attendre l'enseignement que Jésus donnera aux apôtres sous la présidence de l'Esprit-Saint, Actes chapitre 1, 1 et 2. Jésus donnait ses enseignements aux apôtres dans l'Esprit-Saint. Ouais, il faut attendre. Il faut attendre pour être vraiment converti. Mais ce qui est extraordinaire, donc, on peut faire des applications pratiques. Je vais sauter ça parce que je vais vous présenter une autre exhortation. Mais c'est rien, j'ai peu de temps. Hein. 3 minutes? Hein?
5.
Ah, laissons tomber une exhortation. Mince. Désolé, hein? On est toujours limité. Mais en fait, nous pouvons être encouragés par ce récit. Est-ce que vous avez vu, c'est très parlant pour moi, les pauvres disciples, bon, ils sont dans le noir, ils ne comprennent rien, ils ne savent pas qui est Jésus, où il est, et ils doivent ramer. Et le vent est contraire. Ça vous arrive? J'ai bien aimé cette expression de Jean. Le vent se réveille. Ça vous arrive? Dans la société française actuelle, il n'y a pas de vent contraire qui veut nous empêcher d'arriver là où nous voulons aller? Non? Ça ne vous arrive pas? J'espère que vous en faites peur, hein. Je crois que vous vivez dans un autre monde que moi. Bien sûr. Bien sûr. Nous avons des vents contraires qui veulent nous empêcher, venant de notre société, qui, déjà depuis des siècles, ont tourné le dos à Dieu. Ça me fait pleurer. Parce que la France, autrefois, était la sœur aînée de l'Église, envoyée des missionnaires dans le monde entier. Maintenant, la France a tourné le dos à son Dieu. Quelle tragédie! Nous avons des vents contraires. Qui peut empêcher Jésus de nous faire parvenir à notre destination, chez lui? Rien. Il suffit de l'accueillir dans notre bateau. Suffit d'accepter son dessein. Suffit de se laisser enseigner par son esprit. Rien ne peut nous empêcher d'arriver au bon port, là où Jésus habite, dans la maison qu'il a préparée pour nous. D'accord? Moi, je ressens ça tous les jours. Ben, c'est des apôtres aussi. Et moi, je me sens souvent aussi bête, aussi incrédule que les apôtres. Ma prière préférée dans les évangiles, c'est le père de l'enfant démoniaque quand Jésus descend du monde de la transfiguration. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Ah, ça c'est moi. Vous savez combien de fois je voulais laisser tomber? Ça ne vaut pas la peine de lutter. Ça ne vaut plus la peine de ramer contre le vent. Beaucoup plus facile. La solution de facilité d'accepter le monde. Se conformer. Voilà. C'est ça que se cherche Satan. Nous faire de nous des conformistes. Faites pas. Nous arriverons contre vent contraire, contre vague, contre une mer déchaînée. Nous arriverons. Pas de doute. Mais, il y a un mais. Il faut accepter Jésus dans la barque. Qui mène notre barque? C'est nous ou c'est Dieu? Il y a un grand encouragement dans ça. Jésus a accompli le dessein de Dieu. C'est pour nous. C'est pour nous. Donc voilà, je n'ai pas pu, je suis désolé. J'avais préparé une exhortation pour vous. Ce sera pour une autre fois. Il faut m'inviter à nouveau pour que je...
C'est prévu.